Oui, Seigneur, la Bible est aussi un sujet de bonheur parce que elle est parole de Dieu. Elle nous permet de mieux te connaître, de savoir qui tu es, combien tu nous aimes. Et Seigneur, je te remercie et nous te remercions pour ce temps où nous allons la partager, la lire et l'étudier. Seigneur, nous te remettons Charlie, Seigneur, qu'il soit pleinement avec toi, en ta confiance, Seigneur. Amen.
Amen. Merci, Arnaud. Bonjour à tous. Nous allons étudier, méditer ensemble sur le récit d'un homme, et je voudrais que vous le découvriez. C'est un homme de la Bible, qualifié de héros de la foi, selon Hébreux 11. Un homme qui a été appelé par Dieu et qui a protesté. Il n'a pas voulu exécuter la mission, premièrement la mission que Dieu lui a confiée. Cet homme, il a voulu des preuves de la part de Dieu. Je vous donne un indice encore, c'est un juge. Lorsque l'Éternel l'a appelé, il a demandé une preuve, et l'ange de l'Éternel a fait jaillir du rocher la flamme qui a consumé le sacrifice qu'il voulait offrir. Je suis, merci Jean-Marc, Gédéon. Avant d'étudier ce récit de Gédéon, nous allons brosser le bilan de la conquête de Canaan. En fait, le livre des juges commence avec en dressant le bilan de cette conquête de Canaan. Josué avait achevé la première étape qui consistait à permettre à chacune des tribus d'Israël d'occuper le territoire que l'Éternel leur avait promis. La deuxième phase incombait à chacune des tribus qui avaient le devoir d'éliminer les Cananéens et de prendre possession de la totalité de leur territoire. Malheureusement, cette deuxième phase n'a été que très peu réussie. Et cet échec est imputé à l'infidélité des Israélites qui ont conservé les Madianites, les Cananéens parmi eux. Ensuite, donc, le livre nous relate cette saga des juges, ces hommes qui étaient suscités par l'Éternel pour libérer son peuple de l'emprise de leurs ennemis. Dans le livre des juges, ensuite, l'infidélité d'Israël est présentée sous un autre aspect, l'aspect cultuel. Et on a ensuite, le cycle du péché qui est répété 6 fois. Les Israélites vont de plus en plus se détourner de l'Éternel, craignant les faux dieux, craignant les dieux étrangers et les adorant, désobéissant ainsi à l'ordre que l'Éternel leur avait donné. On découvre tout au long du livre des juges, justement, ce refrain. Israël fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dieu abandonne Israël et l'a servi à ses ennemis. Israël crie à l'Éternel. Dieu suscite un libérateur. Israël est délivré de ses ennemis. Israël vit en paix et craint et sert l'Éternel. Et rebelote. Il y en a eu en tout 14 juges. Othniel fut le premier. Il délivra Israël de 8 ans d'emprise du roi de Mésopotamie. Le pays resta 40 ans après cette délivrance, en paix. Ehud le second, après que les Moabites aient assiégé Israël pendant 18 ans, il délivre Israël et Israël connaît 80 ans de paix. Shamgar, le troisième, c'est le deuxième cycle avec Ehud et Shamgar qui fait juste une apparition éclair. On ne sait pas grand-chose de lui, à part qu'il ait tué 600 hommes avec un aiguillon à bœuf, je crois, je ne sais plus. Ensuite, le troisième cycle, Déborah et Barak, qui délivrèrent Israël de l'emprise des Cananéens. 20 ans d'asservissement. Et l'Éternel leur donne 40 ans de paix. Mais le cycle recommence. Ils firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Dieu les abandonna aux Madianites, qui, chaque fois qu'Israël ensemençait leur récolte, venaient avec d'autres peuples aussi nombreux que des sauterelles pour ravager le pays et détruisaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. La Bible nous dit qu'ils ne laissèrent rien à Israël pendant 7 ans. Ils ne laissèrent ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Sept ans. Peut-être que pendant ces années, Israël a essayé de lutter, de résister par lui-même, croyant s'en sortir sans l'intervention de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils se rendent finalement compte que sans ce Dieu dont leur en parlait leur père, ils ne pourraient pas s'en sortir. Alors ils crient, ils implorent ce Dieu puissant, seul capable de les délivrer. Et nous sommes dans le quatrième cycle. C'est dans ce contexte que l'on retrouve l'histoire de Gédéon. Et je vous invite, si vous voulez bien, à ouvrir vos Bibles dans le chapitre, au chapitre 6. Et nous lirons les versets 11 à 24. Juges 6, les versets 11 à 24. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit : Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine avec des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair, et les pinces s'enlevèrent. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consumait la chair, et les pinces s'enlevèrent. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que l'ange de l'Éternel dit, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, pardon, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Amen. Assiégé par les Madianites, Israël est affamé. On comprend mieux pourquoi Gédéon bat le blé dans un pressoir. Le pressoir était une sorte de cave creusée dans le sol pour fouler le raisin. Et Gédéon est déterminé. Les réserves venaient à manquer. Et le peu qu'il avait, il était hors de question pour lui que les Madianites le prennent. Dans ce pressoir, il était peut-être en train d'espérer que ce Dieu dont lui ont parlé ses pères pourrait venir les délivrer. Peut-être en voulait-il justement à ce Dieu qui les avait abandonnés. En tout cas, pendant qu'il remuait ces choses, je suppose, l'Éternel lui apparaît sous la forme d'un ange. Remarquez la salutation. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Vaillant guerrier, hélas, lui répondit Gédéon. Hélas, monsieur, si seulement Dieu était avec nous. Si Dieu était avec nous, on n'aurait pas tous ces malheurs qui s'abattent sur nous. Je crois plutôt que Dieu nous a abandonnés. Quelque part, la réponse de Gédéon démontre quand même chez lui une certaine foi en Dieu. Il était sûr que si Dieu était de leur côté, Dieu était capable de les délivrer. Merci Arnaud pour ce verset du début. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Gédéon ne connaissait pas personnellement ce Dieu, puisqu'il ne parle que de choses qui lui auraient été racontées par ses pères, à propos notamment de la sortie d'Égypte. Mais pour lui, c'est clair que si c'était vrai ce qu'on lui a raconté, alors en ce moment, Dieu ne pouvait pas être avec eux. Il fait le constat à juste titre que Dieu les a abandonnés. Je pense que c'est cette foi que Dieu a vue dans le cœur de Gédéon. Et c'est pour ça qu'il le rassure au verset 14 en disant « Va avec la foi, va avec cette force pardon, que tu as et délivre les Madianites, et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Bref, l'Éternel connaissant Gédéon veut lui dire « Gédéon, je sais que tu sais que si je suis avec vous, vous aurez la victoire. Et je veux que tu saches que c'est moi, l'Éternel, qui t'envoie. » Hélas, Seigneur, lui répondit Gédéon encore. Gédéon commence à prendre conscience petit à petit que de la divinité de cette personne qui lui parle. Au verset 13, hélas, Seigneur, le terme employé était Adoni, Adoni en hébreu, qui exprime juste le respect. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit « hélas, monsieur ». Alors qu'au verset 15, Gédéon emploie un terme Adonai, qui n'est réservé qu'à l'Éternel. « Seigneur, si tu savais, je ne suis rien. Ma famille n'est pas grand-chose en Israël, et même dans ma famille, je suis le plus petit. Avec quoi veux-tu que je délivre Israël ? Et comment que Dieu savait ? Comme si Dieu ne sait pas toutes choses. Dieu qui connaissait bien justement Gédéon fait preuve d'une pédagogie et lui parle selon ses besoins. On avait raconté à Gédéon comment l'Éternel avait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et il est intéressant de voir comment Dieu, dans son adresse à Gédéon, fait le parallèle entre l'appel de Moïse et l'appel de Gédéon. Voici quelques similitudes. Si ça veut bien marcher, voilà. Concernant Moïse, va, je t'envoie. Exode 10 et 3, 10. Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Quand l'Éternel envoie Moïse, appelle Moïse, Moïse lui dit, qui suis-je, moi ? Même réponse pour Gédéon. Qui suis-je, moi, pour que tu m'envoies ? L'Éternel dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'envoie. La réponse de l'Éternel à Gédéon, je serai avec toi. Je serai avec toi. Eh bien, Seigneur, si tu es avec moi, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui m'envoies. L'apparition de l'Éternel, même pour Moïse, est déjà un signe. Le buisson ardent. Et Moïse demande ensuite, et Dieu donne ensuite plutôt deux signes supplémentaires à Moïse. Le bâton qui se transforme en serpent et la main lorsqu'il la met dans son manteau qui devient lépreuse. Gédéon demande un premier signe, puis plus loin, Gédéon en redemande deux supplémentaires. Dieu souhaite utiliser Gédéon pour délivrer son peuple, mais à l'instar de Moïse, Gédéon proteste. Il ne veut pas. Non, Seigneur, très sympa de ta part d'avoir pensé à moi, c'est très gentil, j'en suis tout honoré, Seigneur, mais très peu pour moi. Non, pas moi, Seigneur. Regarde-moi, Seigneur, je suis le plus petit de la famille, la plus petite de la tribu, la plus petite. Gédéon se sentait incapable pour ce projet. Mais Dieu fait comprendre à Gédéon qu'il ne s'agit pas de son projet à lui, mais du projet même de Dieu. Et parce que c'est le projet de Dieu, lui-même, il sera aux côtés de Gédéon. Gédéon saisit finalement que Dieu le choisit, mais il ne sait pas encore avec certitude qui est ce Dieu. Il veut être rassuré que ce Dieu-là, c'est bien celui dont lui a parlé, dont lui ont parlé ses pères. Alors il offre un sacrifice qui est consumé d'une manière extraordinaire par une flamme qui jaillit du rocher. Cette fois-ci, Gédéon semble avoir compris que c'était bien l'Éternel, le Dieu de ses pères, qui était à l'œuvre. Parce que Gédéon se souvient de toutes ces histoires qui lui ont été racontées, où la flamme était un signe que Dieu était à l'œuvre, parce qu'elle accompagnait à plusieurs reprises la révélation de Dieu aux hommes. Le buisson ardent, la colonne de feu qui guidait Israël dans la nuit, le mont Sinaï enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu, Gédéon se rappelait de toutes ces choses. Et quand il a vu la flamme jaillir du rocher, il a compris que c'était bien ce Dieu-là dont lui avaient parlé ses pères, qui l'envoyait. Waouh ! Devant ce miracle, ses craintes ne s'apaisent pas, mais elles grandissent. Parce qu'il semble prendre conscience que le Dieu de ses pères existe vraiment. Il en a la confirmation. Que pouvons-nous retenir pour nous ? Nous n'avons pas besoin d'être extraordinaires pour être utilisés par Dieu. Nous pouvons nous sentir insignifiants, mais si l'Éternel nous appelle, c'est qu'il est prêt à faire de grandes choses avec nous. Tout ce dont nous avons besoin de savoir, c'est qu'il est à nos côtés. À la lecture des versets suivants, on prend conscience que on apprend que la nuit suivante, l'Éternel demande à Gédéon une chose folle. Il lui demande au verset 25 de démolir l'autel de Baal construit par son propre père et d'abattre le poteau sacré, puis de remplacer tout ceci par un autel construit pour Dieu, où il va lui offrir un sacrifice d'après les instructions précises de Dieu. Seigneur, tu veux me faire tuer. Le peuple adore ce Dieu et toi tu me demandes de détruire son autel. Qui plus est, tu me demandes de détruire l'autel de mon propre père. Si ma famille me rejette, je serai tout seul contre la colère de ce peuple. Gédéon avait peur. Mais fortifié par ce qui lui est arrivé la veille, la Bible nous dit qu'il obéit. Je ne sais pas s'il fit ce que Dieu lui a demandé cette même nuit ou un peu plus tard, mais le texte nous dit qu'il le fit. Il fit ce que Dieu lui avait ordonné de faire et il le fit de nuit parce qu'il avait peur. Peur de la réaction de sa famille et des gens du village. Mais les précautions de Gédéon n'ont pas servi à grand-chose. Les gens du village enquêtent et tout de suite on sait qui est l'auteur de cette méprise. Et tout le monde cherche à faire mourir Gédéon. Contre toute attente, son père prend sa défense. Il a peut-être été interpellé par cet acte de son fils. Il s'est peut-être souvenu de ce qu'il a raconté lui-même à son fils. Et a pris conscience de son erreur. Et son père met au défi Baal de se défendre lui-même. Il paraît que le baalisme était tolérant. En tout cas, tant qu'on ne touchait pas à ses croyances fondamentales. Ainsi, pour les pays d'alentour, le Dieu d'Israël était toléré. Peut-être même considéré en un temps comme un des Baals. Pourtant, le Dieu de la Bible est un Dieu jaloux qui ne tolère aucun concurrent. Nul ne peut servir de maître, nous rappelle le Seigneur. Et Gédéon commence sa mission par exécuter un ordre auquel Israël avait désobéi. Au verset 10, l'Éternel rappelle justement à Israël, « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, et vous n'avez point écouté ma voix. » Dans cet engagement de Gédéon, Dieu voulait que Gédéon prenne position pour lui. Et nous vivons nous aussi dans une culture tolérante. En tout cas, tant que nous ne nous opposons pas à ces croyances fondamentales aussi. Et nous le voyons avec ce qui se passe dans l'actualité du moment. Mais il arrive un moment dans notre vie chrétienne où nous devons prendre position pour la vérité de la parole de Dieu. Nous avons peut-être été jusqu'ici un chrétien silencieux. Nous avons peut-être caché notre engagement pour Dieu auprès de notre famille, de nos amis, de nos collègues, pour avoir la paix. Prendre position pour Dieu, peut être coûteux. Pour Gédéon, détruire l'autel de son père aurait pu lui coûter sa famille, son héritage, sa vie. Il est possible que nous soyons dans une telle situation où nous devons peut-être prendre position pour Dieu. Si tel est le cas, je ne sais pas ce que vous aurez à faire pour prendre position pour Dieu. Ça pourrait être coûteux. Mais ce que je sais, c'est que si nous ne prenons pas position quand nous le devons pour Dieu, notre relation avec Dieu en souffrira. Pourquoi ? Parce que prendre position est souvent un acte d'obéissance. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il ne nous le demande pas. Il ne nous demande pas de le faire sans sentiment. Nous pouvons avoir peur, mais nous devons tout de même obéir. La peur, lorsque le Seigneur nous envoie, n'est pas un manque de foi, n'est pas une absence de foi. Seulement, nous ne devons pas laisser la peur nous bouleverser au point de ne pas accomplir ce que Dieu veut de nous, au point de ne pas obéir. Nous n'avons pas besoin, lorsque le Seigneur nous envoie, d'agir en héros. Certains ont traité Gédéon de peureux parce qu'il a agi de nuit. Mais si l'on regarde, Dieu n'a jamais demandé à Gédéon d'agir en plein jour. Nous devons juste faire ce que Dieu nous demande. L'obéissance, même un peu craintive, suffit et nous assure la protection de notre Dieu. Ce qui compte, c'est obéir. Gédéon semble encore une fois de plus avoir compris qui était ce Dieu et que c'était lui qui l'envoyait. Et galvanisé par ce qui lui arrive, comment son père prend sa défense contre toute attente et comment Baal n'est même pas capable de se défendre tout seul. Galvanisé aussi par l'Esprit de Dieu qui s'empare de lui, Il sonne du corps, se mettant ainsi en ordre de bataille pour combattre l'ennemi. Il convoque les tribus de Manassé, d'Aser, de Nephtali, de Zabulon, et 32 000 hommes viennent le rejoindre. Mais encore une dernière fois, avant de s'engager, Gédéon veut être sûr qu'il ne fait pas tout ceci seul, parce qu'il est convaincu qu'il n'y arrivera pas tout seul. Il a besoin de savoir que Dieu est bel et bien avec lui et lui redemande un deuxième signe. Au verset 36. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et il en fit sortir la rosée qui donna de l'eau, plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que le terrain se couvre de rosée. » La fameuse histoire de la toison a été interprétée à toutes les sauces, et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens sincères, même, qui recherchent la volonté de Dieu avec des toisons. Des toisons qui ont pris peut-être d'autres formes. Je ne voudrais pas m'attarder sur cet aspect de la recherche de la volonté de Dieu. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine méditation ensemble. Mais je tiens juste à souligner que l'histoire de la toison doit être vécue comme un principe à comprendre plutôt qu'une pratique à copier. Je m'explique. Le principe, c'est qu'une faible foi, et même vacillante, n'est pas un manque de foi. Gédéon savait ce qu'était la volonté de Dieu. Il ne recherchait pas la volonté de Dieu. Verset 36, « Si tu as résolu de délivrer Israël par ma main comme tu l'as dit, il sait que c'est Dieu qui le lui a dit. Il sait quelle est la volonté de Dieu. Mais Gédéon cherche à être rassuré que Dieu va bien l'accompagner dans ce projet. Jugez en vous-même, il convoque 4 tribus. Tout ce qu'il réussit à avoir, ce n'est que 32 000 hommes. Or Gédéon savait que Madian était un peuple nombreux, accompagné d'autres peuples comme les Amalécites, aussi nombreux que des sauterelles. Et le récit, plus loin, nous montrera que Madian était au nombre de 135 000. 32 000 personnes contre 135 000. Que pouvait faire Gédéon? Il cherche donc à être rassuré que c'est Dieu qui l'envoie. On peut comprendre son insistance. Depuis le début, Gédéon avait foi en Dieu. Il avait foi que si Dieu est avec lui, Dieu lui donnera la victoire. Donc pour moi, l'insistance de Gédéon n'est donc pas un manque de foi, mais une demande de confirmation que Dieu, le Dieu de ses pères, est bien avec lui et que c'est lui qui va délivrer Israël. D'ailleurs, Dieu était prêt à faire ce truc de la toison pour Gédéon, pour le rassurer. Dieu ne lui a d'ailleurs pas reproché son manque de foi. Et comme je le disais au début, Gédéon même est considéré dans Hébreux 11, 32 comme un héros de la foi. Dieu a pris Gédéon, homme peut-être faible, mais déterminé, l'a élevé, l'a formé pour sa gloire. Dieu savait que Gédéon avait besoin de tout ça pour qu'il comprenne que ce n'est ni par la force, ni par la puissance d'une grande armée qu'Israël sera délivré, mais par sa propre main, la main puissante de Dieu. Et si l'on continue le récit, on verra comment Gédéon acceptera justement de réduire son armée pour ne combattre qu'avec 300 hommes contre seulement 135 000, témoignant ainsi de sa toute confiance en Dieu. Gédéon a appris à connaître Dieu. Il a appris à lui faire confiance. Pas à pas, il a appris à le connaître personnellement. Je crois que si l'ange lui avait dit dès le début qu'il combattrait Madian, 135 000 personnes, avec seulement 300 hommes à sa disposition, je crois que Gédéon aurait douté du message, il aurait douté de son appel, que son appel venait de Dieu. Qu'en est-il de nous? Hésites-tu à affronter quelque chose qui semble te dépasser. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses ? Le trouves-tu impossible à croire ? Te sens-tu trop ordinaire pour être utilisé par Dieu ? As-tu peur ? Pourtant, si tu obéis, si tu lui fais confiance, pas à pas, sur le chemin sur lequel il te conduit, ce que Dieu te demande aura du sens. Ce que Dieu fera avec toi sera peut-être encore plus incroyable que tu ne l'imagines. Les faiblesses de Gédéon, sa peur d'agir, sa foi vacillante, sont souvent nos propres faiblesses. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, nous pouvons être rassurés. Nous trouverons sa puissance qui surmonte toutes nos faiblesses. Je vous exhorte à continuer de lire ce récit chez vous pour découvrir comment, avec une poignée de personnes, Gédéon, avec Dieu à ses côtés, a pu venir à bout d'une armée 450 fois plus nombreuse. Même si ce que tu as semble insignifiant, sache qu'à tes côtés se trouve un grand Dieu. C'est tout ce dont tu as besoin. Dieu accomplit ses desseins sur la terre au travers d'hommes et de femmes. Aujourd'hui encore, c'est une merveilleuse chose que d'être obéissant à Dieu et de faire partie de son merveilleux plan. Dieu t'appelle aujourd'hui. Entends-tu son appel ? Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas tes oreilles. Obéis. Va avec la force que tu as et tu verras la gloire de Dieu. Amen.